Bonjour les merveilles, bienvenue dans le numéro 23 du podcast « Un instant, une vie ». Je suis Joëlle Lecravert et aujourd'hui je reçois Clotilde Jean-Baptiste. Clotilde a transformé le défi de la dyslexie et du racisme par l'écriture. Elle nourrit ses histoires, romans et BD, de toutes ses expériences de vie, d'apprentissage et de dépassement. Pour Clotilde, tant que l'on n'est pas mort, on peut tester, apprendre et grandir. Je vous lis ces mots pour se décrire. Je suis femme, je suis romancière, je suis coach littéraire, je suis animatrice d'ateliers d'écriture, je suis épouse, je suis mère, je suis personne et à la fois quelqu'un. Je suis une personne qui voudrait t'aider à trouver le soleil qui dort en toi. Vous pouvez contacter Clotilde sur Instagram, Clotilde Jean-Baptiste, et sur sa page Facebook, Clotilde JB Auteur. Si vous aussi pensez que nous pouvons tous briller, alors cet épisode va vous plaire. Pour être tenu au courant de mes accompagnements et de toutes les infos et sorties du podcast, alors inscrivez-vous sur mon site beautifultoi.fr. Et je vous laisse maintenant découvrir la créative Clotilde Jean-Baptiste.
Bonjour, bonjour Clotilde.
Bonjour.
Je suis ravie de te recevoir dans ce podcast aujourd'hui.
Merci, tout l'honneur est pour moi. Bonjour à tous.
Et je te propose de te présenter. Clotilde Jean-Baptiste, qui es-tu aujourd'hui ?
Aujourd'hui, je suis une femme. Je suis une romancière, je suis une coach littéraire, je suis une animatrice d'ateliers d'écriture, je suis une mère, je suis une épouse, je suis... d'origine martiniquaise et camerounaise. Je suis originaire de région parisienne. Je suis une femme qui habite sur Montpellier. Voilà. Je suis tout ça.
Tu es tout ça. C'est un beau panel de parties, toi, à explorer, à vivre et à faire vivre les unes avec les autres. Qu'est-ce qui t'a amené à être cette femme-là aujourd'hui, cette mère, cette épouse, cette accompagnatrice en atelier d'écriture à Montpellier?
Alors, je vais commencer par le côté romancière, par le côté animatrice d'atelier d'écriture. Ce qui m'a conduit à être ceci aujourd'hui, c'est ma dyslexie. Et que petite, on m'a décelé une dyslexie assez tôt. Pour ne pas faire de dictée, voilà, parce que je détestais les dictées.
Quelle surprise!
Comme 99% des enfants, peut-être, je pense.
Oui, je pense, oui.
Je me suis mise à écrire. Et depuis, je n'arrête pas. Je continue d'écrire. C'est un besoin, c'est vraiment ce que je suis. C'est nécessaire, c'est vital.
Oui, en fait, dans l'écriture, tu as trouvé cet espace déjà d'exploration, du coup, de tes capacités à travers et malgré une étiquette d'incompétence qu'on t'a collée. En incompétence, c'est peut-être pas le bon mot, mais de non-capacité en tout cas. Et du coup, tu as réussi, dans ce que j'entends, à récupérer ta compétence et ton pouvoir de création en écrivant et en créant ce que toi, tu avais envie de créer à travers de la façon dont toi, tu avais envie de le faire.
C'est ça. C'est-à-dire que c'est vu, c'est montré comme une incompétence. Dans le milieu scolaire, clairement, c'est vu comme
en
ça.
Français, ouais. En France, oui.
Voilà. On m'a longtemps fait croire que je n'arriverais pas à parler anglais par rapport à ma dyslexie. Et aujourd'hui, je suis allée plus de 6 fois en Angleterre, je suis allée aux États-Unis et ça s'est très bien passé pour moi. Donc, voilà. C'est ça au début qu'on nous met comme étiquette. Et au fur et à mesure, à force d'écrire, de lire, de pousser en fait, de voir ma dyslexie autrement, je l'ai vue plus comme une arme en fait. Ça pousse à la création, vraiment en fait ça. À la création. C'est comme si tu donnes un stylo ou un crayon à un dessinateur. En fait, Je vois ça comme ça. Ça se soigne par l'art. Vraiment, ça se travaille par l'art. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à décrire. C'est pour ça que je pense que je ne m'arrêterai pas de le faire et de pousser les personnes qui le souhaitent à le faire et surtout de casser cette barrière qu'il y a entre par rapport à la littérature. La littérature, c'est un grand mot. C'est...
Un
Il y a
grand
beaucoup
mot
de
ou
personnes.
un gros mot pour certains
Un
même.
grand mot et un gros mot, peut-être. C'est peut-être les deux aussi. C'est un grand, grand mot, parce qu'il y a beaucoup de choses derrière. Il y a des choses magnifiques derrière ce mot. Et c'est peut-être un gros mot aussi, parce qu'il y a des personnes. La littérature peut faire peur.
Ouais, c'est ça.
Des fois, quand je dis que je suis romancière, les gens font waouh! Alors que c'est dur d'être romancière quand même.
Oui, c'est dur, ouais.
C'est ingrat aussi.
Ouais.
Mais je pense que tout le monde peut écrire. Des fois, il y a des facilités, il y a des dons, il y a des facilités, c'est sûr. Mais c'est donné à tout le monde, puisque tout le monde peut briller à travers son écriture, sa propre écriture. C'est une signature. Voilà, chaque personne a sa signature et en écriture, chaque personne a son style.
Ouais. T'as le pourcentage qui est dû au talent et aux capacités innées ou acquises, et puis t'as les peut-être 90% dû au travail.
Voilà, c'est ça. Il y a le côté qui est dû au travail et il y a le
Ouais.
côté où il y a ce qu'on a aussi.
Ouais. Ouais. J'ai entendu aux États-Unis, je ne sais pas si tu sais, mais aux États-Unis, il y a dans certaines entreprises et pour certaines postes, on recherche spécifiquement les dyslexiques parce qu'ils ont justement une façon de penser qui est différente, qui ne rentre pas dans la boîte, justement. Et il me semble que depuis toute petite, c'est un peu ton profil quand même de ne pas rentrer dans la boîte.
C'est ça, je rentre pas du tout dans la boîte. Je ne veux pas rentrer dans la boîte. Petite. À 9 ans, j'ai demandé à mes parents d'aller à l'internat. Peut-être parce que mes sœurs y étaient avant et que moi, je me retrouvais toute seule à la maison avec mes parents et ils ont commencé à trop me gâter et ça ne me plaisait pas du tout.
Ah ouais.
Ah oui, être trop
C'est
gâtée, je ne me sentais pas à l'aise avec le fait d'être trop gâtée.
Tiens, tiens, tiens.
Je me disais pourquoi moi quoi, pourquoi?
Ah.
Donc
Ouais.
j'ai voulu découvrir l'internat tôt. Mon père était plus d'accord que ma mère. Ma mère, elle voulait pas du tout.
Bah oui, son petit bébé là qui se barre à 9 ans, mon petit, c'est mon petit quand il avait 9 ans, il a 15 ans maintenant mon plus petit, mais si à 9 ans il m'avait dit je veux aller en internat, j'aurais été atterrée, atterrée, j'aurais dit non bébé. Donc ouais, je comprends un peu ta mère, mais bon, après c'est vrai que
Voilà.
du coup ça a été une belle expérience pour toi l'internat.
Ah oui, magnifique. Vraiment très belle expérience. J'ai rencontré de belles amitiés. Donc même quand ça a été très très dur et que j'ai rencontré durant mes années d'internat des problèmes de racisme, même si c'était une période très 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 dure, voilà, même pour ma vie, hein, autant dire les mots, ça reste une période magnifique de ma vie puisque ça m'a permis de me construire en fait. Et d'être la personne que je suis aujourd'hui.
Ça t'a permis de te construire comment? Le fait d'être en internat comme ça?
D'être plus indépendante.
Parce que c'est vrai que tu l'étais pas du tout déjà avant.
Je pense que j'étais un peu quand j'ai demandé d'aller à l'internat allemand. Je pense qu'il y avait peut-être déjà cette
oui,
esthétique.
que oui, il y avait peut-être déjà.
Et de m'adapter à plein de situations, au
Ouais,
climat aussi. Que j'étais dans
ouais,
le nord.
ouais.
Donc, d'apprendre à vivre, oui, différemment, de rencontrer d'autres personnes,
Ouais.
de forger une amitié sur du long terme, malgré la distance. C'est-à-dire que voilà, c'est des amitiés que j'ai toujours, toujours aujourd'hui. J'ai commencé l'internat à 9 ans, aujourd'hui j'ai 29 ans et je suis toujours en contact avec des personnes que j'ai rencontrées à l'époque. Donc voilà, on s'invite au mariage, on s'invite aux anniversaires, on envoie des cadeaux pour la naissance des petits bouts. Donc,
C'est chouette.
voilà, il y a toujours.
Ouais.
C'est une petite famille qu'on se construit au final.
Ouais.
Une autre petite famille qu'on se construit.
Ouais. La famille choisie.
Voilà, la famille choisie.
Et ta dyslexie, je vais pas dire ta dyslexie parce que je sais pas si tu le considères d'ailleurs comme une partie de toi ou comme juste une expression.
Alors, la dyslexie, oui, elle fait partie de moi. Je pense qu'elle fait vraiment
Ouais.
partie de moi. Puisque quand je suis fatiguée, certaines choses vont revenir. Il y a des expressions que je vais dire à l'envers.
Ouais.
Il y a des lettres que je vais confondre.
Ouais.
Voilà, des fois, je vais me relire. Je tape, je tape, je tape, je tape. Le lendemain, une fois bien reposée, je me relis. Je me dis, oh, mais quelle horreur, qu'est-ce que j'ai écrit? Donc oui, ça
Ouais.
fait partie de moi, puisque même dans ma manière de parler, dans ma manière de penser aussi, on a voilà, mais après, je m'en accommode. Ça fonctionne.
Ça fonctionne.
Ça
Ouais.
fonctionne.
Ouais.
Sur moi, ça fonctionne. Je sais qu'il y a des personnes qui ont du mal à vivre avec. Mais ça fonctionne. J'ai réussi à trouver le moyen de vivre avec
Ouais, en utilisant
l'écriture.
l'écriture. Ouais, c'est important ça.
Oui.
Et donc, tu as, pour juste continuer où on en était tout à l'heure, tu as fait ton internat. Tu as continué à, je suppose, tu as continué justement à utiliser l'écriture et en première,
En première, j'ai sorti mon premier livre.
tu as
Oui.
sorti ton premier
Première.
livre, ouais.
Okay. Donc, avant d'avoir le bac. Avant d'avoir le bac de français.
Ouais.
Ah,
Et
donc, l'héritage.
quand t'es arrivé au bac de français, tu l'as dit, je suis romancière. Non?
Je ne l'aurais pas dit. Non, ce n'était pas forcément une bonne chose. C'était une belle expérience. C'était une belle expérience. Mais à partir du moment que j'ai sorti mon livre, ma professeure de français m'a vue différemment, ça c'est sûr.
Ok. De quel en différemment comment?
Dans le sens que elle a lu mon livre, en fait, elle a acheté mon livre, elle a allé en
Waouh.
librairie, elle a acheté, m'a demandé une
Super.
dédicace, c'était vraiment super. Mais ensuite, je pouvais toujours faire mieux.
Ah.
Je pouvais toujours faire mieux. C'est, ah, je t'ai lu, mais tu peux vraiment faire mieux, hein, tu peux vraiment faire mieux. Et quand on écrit, on est libre de ce qu'on écrit. C'est différent d'une disserte de français. Il y a beaucoup de contraintes dans une disserte de français. Donc, quand on n'est pas à l'aise avec un sujet, eh ben, ça se ressent, forcément. Et moi, en tant que dyslexique, eh ben, ça se ressent encore plus. Si je ne suis pas à l'aise avec le travail que je fais, ça va forcément se ressentir. Donc,
Ouais.
y avait des devoirs de français où c'était bien.
Ouais.
Et il y en avait d'autres, c'est ah, je sais que tu peux faire mieux.
Ouais.
Mais donc voilà, donc ça. Voilà, ça peut mettre une étiquette qui peut être dérangeante sur certains points.
Ouais, où tout d'un coup, ça te met dans un espace d'excellence obligée.
Voilà, c'est ça. C'est exactement ça.
Et ensuite, donc, tu as passé ton bac et puis je sais que tu as fait un service civique.
Alors, juste avant le service civique, j'ai fait une école d'éducatrice spécialisée.
Ah oui,
J'ai
ouais.
été éducatrice spécialisée. Donc j'ai passé le diplôme, j'ai fait 3 ans d'études pour être éducatrice spécialisée. Donc, puisque j'avais ce besoin de vouloir aider les autres. Je ne savais pas comment. Et durant toute mon année de terminale, j'ai galéré à exprimer ce que je voulais faire. On voulait m'envoyer en fac de psycho, mais je ne voulais pas faire fac de psycho. Donc, parce que je voulais garder du temps pour écrire.
Et
Un
t'aurais pu
côté.
écrire, mais des dissertes pour la fac, quoi.
Ça.
C'est moins sympa.
Exactement, ça ne serait pas été la
La
même
même
chose.
écriture. Ouais.
Voilà. Et donc, au début, je me suis présentée pour le concours d'auxiliaire de puéricultrice. Et arrivé à l'examen, à l'oral, on m'a dit, mais pourquoi vous ne faites pas éducatrice spécialisée? Et je ne connaissais pas très bien, en fait. Pour moi, c'était Pascal le grand frère et je n'ai pas sa carrure à Pascal le grand frère. Donc ça n'aurait pas collé
Non.
avec moi. Et au final, j'ai été me renseigner et c'était moi. C'était
Ça
moi.
correspondait complètement à qui tu es,
Ça
enfin qui
correspondait.
tu étais à ce moment-là en tout cas.
Voilà. Et je me suis présentée au concours, je l'ai eu. Et j'ai fait 3 ans d'études. Et après, j'ai fait un service civique, juste après.
Et qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce service civique? Pourquoi t'as fait un service civique?
Au bout de 3 ans d'études d'éducatrice spécialisée, parce que j'ai commencé très tôt, j'ai commencé à 18 ans. Donc, à 18 ans. Et j'ai fini à 20, 21, 22. Mes études d'éducatrice spécialisée. J'ai fait des stages assez durs avec des personnes aveugles qui ont perdu la vue au cours de leur vie, donc tout un travail autour du deuil. J'ai fait un stage avec des personnes sans domicile fixe, avec des anciens détenus. J'ai fait un stage auprès d'enfants en danger ou au risque d'en danger dans leur famille. Donc, une fois que je suis sortie diplômée et que j'ai commencé à chercher du travail, j'ai eu du mal à trouver parce que déjà on me trouvait trop jeune. Trop jeune, vous êtes trop jeune pour commencer. Et là, on me proposait du travail, donc c'est dans un des stages que j'avais fait. Je me suis dit que j'ai beaucoup aimé ce stage-là, j'ai vraiment aimé tous mes stages. Mais je me suis dit que si je commence là tout de suite en tant qu'éducatrice spécialisée, je me marie pas, je reste seule, je.
Ta
Voilà.
vie, ce serait devenu ça en fait.
Voilà, ma vie, ce
Ouais.
serait que ce travail-là, que ce travail-là. Et je me disais que ce serait pas mal quand même de faire autre chose. De
Mmh,
voir un peu, de prendre un peu de distance avec
Mmh.
l'éducation spécialisée. Donc j'ai continué en intérim l'éducation spécialisée, hein, je n'ai pas arrêté. Du coup, en même temps, je faisais mon service civique.
T'as fait ton service civique où et
À
comment?
Paris, donc
Ouais.
auprès du défenseur des droits, avec l'association Corda, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, auprès du défenseur des droits en 2015. Donc, très bon service civique. Donc là, du coup, on était amené à aller dans les écoles, à intervenir pour parler des droits de l'enfant et des discriminations aussi. Et avec mon binôme, du coup, parce qu'on était deux à aller, on a passé de bons moments à aller dans les différentes classes pour parler des droits de l'enfant dans le monde entier. Donc voilà. Là, j'ai su que j'ai bien fait de ne pas être professeur des écoles. Aussi.
Pourquoi?
Y avait des classes qui étaient quand même assez difficiles.
Ouais. Et tu faisais comment du coup pour être entendu?
Alors, ce qu'on faisait avec mon binôme, c'est de tendre la main aux élèves les plus agités,
D'accord.
de leur donner des responsabilités.
Ouais.
Et ça fonctionnait. Donc quand ils commençaient à parler, à s'agiter, on disait, ben, tu veux bien nous aider à distribuer, à donner les consignes, à ramasser. Et au final, tous les professeurs nous disaient que c'était les plus insupportables qui étaient les plus attentifs à nos interventions.
Oui, ce qui fait du sens parce que s'ils sont insupportables et agités, c'est que y a une demande derrière, une demande
Voilà.
d'attention, une demande de reconnaissance, une envie d'être, de pouvoir faire alors qu'ils n'y arrivent pas, ils se sentent incompétents et de
C'est
leur
ça.
donner cet espace.
C'est
Leur
ça.
donne forcément un endroit où ils peuvent commencer à se réparer aussi, en fait, de ce qu'ils ont pu vivre autrement dans la classe de non-reconnaissance.
Exactement. C'est
Ouais.
toujours en fait donner la possibilité à quelqu'un de briller.
Tout ce que. Ouais.
C'est ce qui me J'ai entendu cette phrase un jour dans un film et depuis elle est toujours dans ma tête, toujours, 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 toujours. C'était dans le film Coach Carter où justement le coach il passe
Ouais,
son
j'ai beaucoup aimé
leader
ce film-là,
à son élève de quoi est-ce que tu as peur, de quoi est-ce que tu as peur et il finit par lui dire peur de briller.
ouais.
Je me dis mais pourquoi? Pourquoi il a peur de briller? Il a beaucoup de choses sûrement à apporter. Donc oui, je m'attarde. Je ne sais même pas si c'est la bonne expression. Des personnes en difficulté, j'ai une attention particulière.
Mais aussi de par ton histoire, cet endroit où toi, tu as été à ces endroits différents, de par la dyslexie, de par le racisme que tu as rencontré aussi. Tu as été confronté à des espaces où, à un moment donné, tu étais en difficulté, tu n'avais pas les ressources au départ, tu n'avais pas l'information ou la connaissance à un certain moment non plus, et tu es allé les chercher de façon à pouvoir les transformer. Je suppose que sur ton parcours, tu as rencontré des gens qui étaient aidants aussi et soutenants.
Oui. Ma meilleure amie, vraiment, au moment où j'ai mes problèmes de racisme, j'étais vraiment, vraiment, vraiment au plus bas, a toujours, toujours, toujours été là pour me soutenir. Et au moment où j'étais vraiment au bout de l'envie de vivre,
Ah oui, ça allait très loin en fait.
oui, ça a été très, très loin. Elle était là et elle m'a dit cette phrase très très dure mais qui est toujours dans ma tête. Si tu fais une connerie, je pisse sur ta tombe.
Comme Pat Benatar sur la tombe d'Elvis Presley. Pareil. Ouais. Parce qu'il avait dit que les femmes pouvaient pas faire du rock.
Voilà.
Du coup, ouais.
Et donc voilà.
Et du coup, ça t'a fait
Je me suis dit,
déconnecter.
ça a fait l'héritage de Monsieur Kelly. Ça a fait que j'ai eu envie encore, sans le dire à mes parents, voilà, pour pas changer, que j'aille déposer un manuscrit en étant mineure en maison d'édition. Et quand je suis arrivée à la maison d'édition avec mon manuscrit, rempli de fautes d'orthographe, l'ai déposé. Et dans ma tête, je me suis dit, là, ça passe ou ça casse. Et soit je suis vraiment faite pour quelque chose, soit il n'y a pas de raison de continuer. Pas de raison de continuer. Et j'ai déposé le manuscrit. Et là, ils m'ont demandé si j'étais majeure. J'ai pas répondu. Et la dame a compris en voyant ma tête que je n'étais pas majeure. Elle m'a tendu une feuille. Elle a dit, tu fais signer ça à tes parents. Sinon.
Sinon,
Et j'ai dit, ils sont d'accord, c'est eux qui m'ont donné les tickets pour le bus. Et ma mère m'avait donné un carnet de tickets.
Ah oui.
Et donc, elle dit, bon, tu les appelles, tu signes. Donc, du coup, j'ai appelé, j'ai signé. Et non, non, j'ai appelé, mais ils n'ont pas répondu. Donc, j'ai signé.
Ah oui, d'accord.
Je suis partie avec ma feuille, parce qu'ils m'ont donné une partie de la feuille comme preuve. J'ai déposé ça sur la table. J'ai dit, voilà. J'ai présenté mon manuscrit à une maison d'édition. Et si ça passe, et ben voilà ce que vous aurez à faire.
Et alors, quelle était leur réaction?
Ils ont dit, bon, ben, on verra bien, hein, mais
Ils
on
étaient
verra bien.
étonnés?
Oui, ils étaient étonnés. Ils ont dit, bon, on verra bien. Et donc ça, c'était en décembre. C'était en décembre.
De ton année de première, ça.
BEP.
BEP.
En BEP, parce que j'ai fait un BEP entre deux. C'était en 2008. C'était en 2008. Et en 2009, en février 2009,
Ah oui, c'était longtemps après, en fait.
voilà.
Ah non,
C'était
3 mois.
décembre 2008. Décembre 2008. Parce que comme j'étais à l'internat, c'était pendant les vacances que j'étais partie déposer. C'était soit le week-end ou les vacances que j'avais la possibilité d'être sur Paris. Donc, c'était pendant les vacances de Noël. Et après, j'avais un stage à l'hôtel Four Seasons. Georges V Four Seasons, un hôtel de luxe à Paris, où là, je me suis retrouvée à faire les ménages en tant que femme de chambre. Expérience assez, assez intéressante aussi, puisque j'ai été amenée à nettoyer des chambres de scénaristes.
Ah Le hasard était extraordinaire.
Des scénarios hollywoodiens sur des tables, et j'avais juste envie de les lire, mais je ne pouvais pas.
Aïe, aïe, aïe.
C'était assez frustrant. Et juste après ce stage, l'éditeur m'a appelé. Et il m'a dit, voilà, nous avons aimé votre histoire et nous voudrions vous proposer un contrat. Donc, j'étais en voiture avec mes parents.
T'as hurlé, non ?
Hurlé, on a failli faire un accident.
Bah oui.
Mais c'était vraiment un très beau cadeau de la vie. Un très beau cadeau de la vie.
Et, voilà, et du coup, tu as décidé que ça valait la peine de continuer, du coup.
Voilà, ça valait la peine de continuer. Et voilà, je ne regrette pas d'avoir continué.
Ouais.
Je me suis battue pour me remettre en forme.
Ouais, au niveau psychique et émotionnel,
psychique,
je suppose.
Psychique, émotionnel. Ça m'a coûté pas mal de choses, hein, toute cette histoire. Ça m'a coûté des problèmes de tachycardie.
Ouais, ouais.
Des problèmes d'aphonie aussi.
D'aphonie, d'accord, ouais. Symboliquement, c'est intéressant.
Voilà, il y avait beaucoup de choses présentes qui ont viré dans mon corps. Mais je suis quand même restée. Je suis quand même restée parce que il fallait que je le fasse pour moi. Je ne sais pas pourquoi, je ressentais aussi le besoin de le faire pour la communauté. Parce que j'étais la première fille noire à être dans ce lycée-là. Je me suis dit, il y en aura peut-être d'autres.
Bah oui, on peut imaginer quand même.
Je suis restée. Et quand je suis partie, que je suis arrivée au lycée en première, c'est là que du coup, le roman est sorti. Et ça a été une belle surprise pour toute la famille. Quoi.
Ma fille écrit beaucoup, elle adore écrire. Ma fille de cœur écrit beaucoup aussi. J'adore écrire. Je vois le travail qui est engagé. Je vois l'implication émotionnelle, l'implication physique, parce que faut s'asseoir, faut écrire, faut se contraindre à l'immobilité en fait, ce qui est pas toujours facile. Ça me touche de me dire, de penser à tes parents au moment où c'est arrivé, cette sortie de roman.
Ah oui, c'était une année magique. Et après, s'en est suivi les articles de journaux, les premières dédicaces aussi.
Ouais.
Donc, les premiers droits d'auteur.
Ouais.
Donc, des petites choses comme ça. Et puis... Et puis la douche froide aussi, puisque il y a eu un changement de direction et le directeur est parti avec la caisse.
Ah !
Il a laissé tous les auteurs...
En plan.
Donc là, en grosse remise en question, est-ce que c'est moi qui écris mal ? Est-ce que j'étais vraiment faite pour ça ? Grosse remise en question. Et un jour, un journaliste m'appelle... Et il me dit, Clotilde, j'ai adoré vous lire. Il y a une émission sur Paris qui est rediffusée sur une radio italienne. Est-ce que ça vous intéresse ? Du coup, j'y suis allée et ça m'a redonné du baume au cœur pour écrire de nouveau.
Ouais.
Je continue à écrire, mais on va dire pour publier de nouveau. Pour publier.
Ouais.
Voilà. Je dirais plus dans ce sens.
Et donc, en fait, tu as continué ensuite à travailler en tant qu'accompagnatrice spécialisée.
Éducatrice spécialisée,
jusqu'à ce que tu décides de faire de cette écriture, en fait, ta vie professionnelle à temps plein.
Voilà, la vie m'a aidée aussi un peu. Aidée, je ne sais pas si c'est le mot.
T'as poussé.
On l'a pas poussé. J'ai eu un accident de travail qui a un peu bousculé mes plans. Et je me suis retrouvée très vite, puisque cet accident de travail a touché ma main.
Ah.
J'ai voulu aider un enfant handicapé. L'enfant est tombé dans les escaliers et j'ai voulu le rattraper.
Ouais.
J'ai rattrapé l'enfant, heureusement, mais avec mon poignet. Et ça a laissé des séquelles à ma main. Et je me suis retrouvée dans cette situation où ça aurait pu être difficile pour moi de continuer d'écrire si je restais éducatrice spécialisée. Donc, il fallait
D'accord.
faire un choix et ma passion était plus importante. C'est peut-être pas un choix raisonnable, c'est peut-être pas un choix qui va me rendre riche.
Mais c'est un choix du cœur et de
C'est un choix
l'âme.
du cœur et j'avais besoin de le
Ouais.
faire. J'avais besoin de le faire à ce moment-là. Donc, je devais rejoindre mon petit ami de l'époque à Montpellier. Donc, je l'ai fait et je me suis présentée à Paul Valéry pour suivre une formation pour animer des ateliers d'écriture. Pour faire le lien entre le social et l'écriture.
Pour
Et
continuer d'aider les gens à briller.
voilà. Toujours, toujours, toujours,
Ouais.
toujours. Et au final, maintenant, je donne des ateliers d'écriture pour des personnes non francophones.
Ok.
Donc,
Du coup, c'est un peu le même processus que ce que tu faisais petite, en fait. Plutôt que de leur faire faire la dictée pour
c'est ça.
apprendre, ils apprennent en utilisant leur propre créativité, je suppose.
C'est ça. C'est ce processus-là que je fais aussi avec eux.
Et tu continues d'écrire et d'accompagner les personnes
Voilà.
qui veulent écrire oyé, toutes celles et tous ceux qui cherchent à un coach d'écriture, Clotilde accompagne aussi en
Et là,
écriture.
j'ai une bonne nouvelle ce week-end, c'est que j'ai un de mes clients, voilà, son livre va être bientôt publié.
Ah, super.
Donc là, on va rentrer dans la phase aide à la promo. Voilà.
Ouais. C'est chouette.
C'est une bonne nouvelle pour lui. Une bonne nouvelle.
En tout cas, ça te rend heureuse, je te vois
Ah oui,
sourire et...
ça me rend vraiment heureuse.
Ouais.
Ça me rend vraiment heureuse, ouais. C'est quand même une aventure. C'est difficile, hein. C'est pas simple, mais c'est une belle aventure.
Qu'est-ce que tu dirais est le plus difficile dans le fait d'écrire un livre?
Dans le fait d'écrire, écrire, je dirais que c'est un peu comme avoir un enfant ou élever un enfant. C'est dans le sens qu'on va avoir une idée de ce qu'on veut, mais au bout, ce sera jamais ce qu'on veut. Jamais ce qu'on veut. Mais c'est ça qui rend la chose belle. C'est ça. C'est ça. Des fois, j'ai une idée, je me dis c'est ça, c'est ça. Je commence à écrire. Et je continue à écrire. Et là, il y a un truc qui me fait chiffonne. Il y a un truc qui ne va pas. Mais oui, parce qu'en fait, ce que je veux pour mon personnage, ça ne va pas avec ce personnage-là. Ce n'est pas ce personnage-là.
Ouais.
Faut réécrire, réécrire. Il faut avoir de la patience, il faut avoir du temps. Des fois, on peut être désagréable avec les autres personnes. Quand j'écris, je suis des fois désagréable avec mon mari. Des fois, il me parle et
Tu l'entends
je
pas.
l'entends pas.
Ouais, c'est ça.
Et puis, il peut partir, revenir.
Aucune importance. T'écris.
Écrire. J'ai une idée au début, mais à la fin, ça donne jamais les mêmes choses. Et
Ouais.
c'est ce que je dis à mes clients, c'est vraiment, vous avez une idée. Si vous n'avez pas encore commencé à écrire, vous avez une idée, vous savez, vous allez mettre ça, 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 ça. Au début, demain, ce sera différent. Après-demain, ce sera différent. Et
Ouais.
puis au fur et à mesure, vous allez vous faire à l'idée que c'est vos personnages qui vont prendre le dessus.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est pas toi qui écris, c'est eux qui écrivent à travers toi.
Voilà, c'est ça. Au
Ouais.
fur et à mesure, c'est ça. C'est ça qui se passe.
Ouais.
Et une fois qu'on a ce lâcher prise, on écrit tout seul. Ça se déroule tout seul.
Ouais. C'est un peu presque l'idée de l'écriture automatique. C'est genre, je me branche au personnage, hop, je vous écoute, allez-y.
C'est ça, c'est exactement ça. Et ça prend du temps. Ça prend du temps.
De
Après,
la...
c'est dur, hein. Il faut aller courir tous les jours.
Ouais, c'est ça.
Il faut aller courir chaque semaine.
Ouais.
Si on met sa routine de sport chaque semaine et que on décide d'arrêter et d'aller se prendre, je sais pas
Une
moi,
bière.
une bière ou un kebab. À la place de courir, forcément, on va avoir du mal à repartir après. Mais Il faut se faire une routine. Il faut se faire une routine.
Ouais. Et puis, peut-être aussi qu'il y a des moments où c'est plus facile que d'autres en fonction de l'environnement, du temps. C'est peut-être plus facile d'écrire pour certains quand il pleut et que du coup, on n'a pas envie d'aller dehors, que quand il fait un temps magnifique, qu'on a juste envie d'aller se baigner ou se balader.
Il y a beaucoup de choses. Il y a des personnes qui vont préférer écrire dans des cafés, des personnes qui vont en intérieur, d'autres en extérieur, d'autres sur une terrasse. Ça dépend. Moi, ça dépend vraiment de là où je suis, avec qui je suis. Ça dépend de plein de choses. Il y a des personnes qui ont envie de me voir écrire, qui ont envie de me voir en action pendant que je suis en train d'écrire. Et je leur dis toujours, faut pas m'en vouloir, mais
Non.
si j'écris devant toi, tu ne voudras plus m'inviter, tu vas me détester. Parce que je serai forcément désagréable, même si ce n'est pas voulu, même si je ne m'en souviendrai pas, parce que je serai comme dans un état second, je ne m'en souviens pas des fois. Donc, je préfère avoir ma petite bulle pour écrire. Et maintenant que je suis maman, je mets des dispositions nécessaires pour justement ne pas lui faire subir ça, parce qu'elle n'a rien demandé. Donc, voilà. Je trouve des temps, des espaces où je peux du coup écrire quand j'ai besoin d'écrire et être là pour elle quand il faut que je sois là pour elle.
Du coup, comment tu fais? Parce que je suppose que, enfin, est-ce que toi, tu arrives à écrire sur, OK, je me mets à écrire pendant 1 heure?
Oui, ça, je prends le temps. Mais c'est assez aléatoire avec elle, forcément.
Ben oui,
Donc,
parce qu'elle est toute
quand
petite encore.
voilà, comme elle est toute petite, maintenant je connais un peu son rythme. Je sais que je serai peut-être plus amenée à écrire le matin ou quand elle sera à la crèche. L'après-midi, ça va être aléatoire. Mais là, voilà, ce matin, j'ai eu un peu le temps pour moi. J'ai pu avoir aussi du temps pour elle. Et là, elle est à la sieste. Donc,
Donc, tout va bien.
voilà, tout va bien.
J'ai une de mes amies qui a écrit un livre. Elle s'est donné le mois d'août pour écrire. Donc, elle a commencé le 1er août. Elle a décidé qu'il fallait que ce soit terminé le 31.
D'accord.
Et donc, elle se levait à 5h ou 6h du mat. Elle travaillait jusqu'à 23h, enfin, tant qu'elle pouvait, quoi. Elle se couchait, elle dormait, elle se relevait, elle travaillait. Son mari, s'occupait de faire à manger. Elle ne faisait rien d'autre que d'écrire, en fait,
Eh ben oui,
de
c'est ça.
14h, 15h, de 18h, par jour, quoi. Voilà.
Faut avoir un bon entourage. Faut vraiment avoir un entourage compréhensif aussi par rapport à ça. Je dis pas que quand on écrit, on a un esprit tordu et bizarre, mais peut-être sur certains points, je pense qu'on est quand même un peu tordu. Mais voilà, on sera pas voilà face à une mère au foyer exceptionnelle. Voilà.
Ouais, l'essentiel, c'est pas de faire le ménage, quoi.
Voilà, on sera pas une épouse parfaite dans ce sens-là.
Bon.
C'est partie du jeu.
Mais en même temps, ton mari, il écrit aussi, donc il comprend.
Voilà, il est auteur-illustrateur jeunesse et ça nous arrive de travailler ensemble des fois. Et voilà, on s'organise, on prend le temps de discuter, de communiquer au maximum. Si il a une semaine pleine, parce que quand on dessine aussi, ça prend beaucoup d'énergie. Je gère tout. Et si c'est moi qui ai besoin d'avoir une semaine pleine, il gère tout.
Ah, c'est cool ça.
Donc, voilà.
Ah ouais, ça donne une vraie, j'allais dire une fenêtre, mais c'est même pas une fenêtre, c'est un vrai espace de créativité où tu peux tout laisser
C'est ça.
et faire ce que tu as à faire, explorer les choses quand tu as besoin de les explorer, dormir quand tu as besoin de dormir, parce que c'est peut-être à 2 heures du matin que tu vas écrire, et puis à 2 heures de l'après-midi que tu vas dormir, quoi.
C'est ça. On est ben voilà, c'est briller reste notre maître mot. Si hein, je dois définir qui on est en tant que partenaire, en tant que couple, en tant que professionnel dans le milieu artistique, je dirais que l'important, c'est que chacun ait son espace pour briller.
Ah,
C'est notre truc.
en fait, c'est ton mot, ça brillait.
Voilà, c'est ça. C'est vraiment. c'est vraiment notre c'est mon mot et c'est son mot aussi, donc pour le
ouais.
coup c'est pour ça. Donc voilà.
Briller, trouver l'espace où toi tu brilles, accompagner les autres dans leur brillance.
Voilà, c'est ça.
Et tout ça grâce à
l'écriture.
La dyslexie d'abord, en fait.
Et la dyslexie d'abord, oui. Oui,
en
c'est
fait.
Ça.
Merci, vraiment. La dyslexie, en fait.
Merci.
Oui. Parce que aurais-tu fait ce chemin si tu n'avais pas été obligée de le faire de cette façon-là?
Je pense pas.
Ouais. Oui. Et puis merci à ta persévérance, à ton côté. La première fois qu'on s'est parlé, tu m'as dit: ah, moi je suis quelqu'un de têtu. Merci à ça, merci à la petite fille têtue et à la femme têtue persévérante. Merci au fait que tu sois allée jusqu'au bout des choses et merci aux personnes que tu as rencontrées qui t'ont permis de faire ce parcours, parce que c'est un parcours avec des gros défis que tu as transformé non seulement en cadeau pour toi-même mais en cadeau pour les autres.
Oui, je voyais pas ça comme ça.
Dis-moi, que dirais-tu aujourd'hui à une femme qui rêverait d'écrire et qui n'oserait pas écrire? Qui se dirait: oh, mais je ne sais pas le faire, j'y arriverai jamais, je ne suis pas assez ceci ou je ne suis pas assez cela. Qu'est-ce que tu lui dirais?
Alors, je lui dirais:
appelle-moi.
Non, de prendre le temps de bien s'entourer. Parce que si elle pense qu'elle n'y arrivera pas, ça ne vient pas forcément d'elle. Voilà, de prendre le temps de se connaître, de prendre le temps de s'entourer et de m'appeler après par la suite. Non, c'est vraiment important de prendre le temps d'apprendre à se connaître. Après, c'est vrai que j'ai une autre phrase aussi que j'aime beaucoup. Je fais partie de ces personnes qui pensent qu'on ne se connaît vraiment que le jour de notre mort. Et tant qu'elle n'est pas là, eh ben on peut tout tester.
Ouais.
Rien. De toute façon.
Ouais.
Donc, faut se jeter à l'eau, quoi. Faut oser. Faut prendre le temps de savoir si on peut faire ou pas.
Se jeter à l'encre.
Voilà, se jeter à l'encre. C'est ça. Pas de stylo, là, mais se jeter à l'encre. J'ai un crayon. À côté du babyphone, un crayon.
Ouais. Écrire, écrire, voilà. Écrire, écrire, tester, écrire. Et puis s'entourer de soit de personnes qui écrivent, soit de personnes qui soutiennent comme toi ceux qui écrivent. Dans ce que j'ai compris de ton parcours et de la façon dont tu accompagnes, cet endroit où c'est important de valider par l'expérience, de faire un peu, d'avoir un retour avec des gens qui sont bienveillants, qui sont soutenants, que ce soit pour la dyslexie ou l'écriture, qui demande de l'effort, de la persévérance pour le transformer, de la constance, d'aller chercher ses propres ressources et aussi d'avoir des ressources qui nous sont données parce qu'on ne les a pas toutes. Peut-être faire la liste. Ok, mon entourage est-il bienveillant? Oui, non, check. Est-ce que je me mets l'espace de création autour de moi? Oui, non, check. Est-ce que je suis en lien avec des écrivains et des coachs écrivains? Oui, non, check.
C'est ça, c'est ça. Après, il faut faire attention aussi même à nous autres écrivains et coachs. Je dis souvent ça à mes clients. Je suis là pour vous guider, pour vous accompagner. Mais quand vous avez une idée et que vous tenez à votre idée, moi, je vais vous donner des conseils, des suggestions. Mais si vous avez une idée, quelque chose qui vous êtes sûr de vous, allez-y. Allez-y. Ne prenez pas forcément mon conseil, parce que j'aurais forcément tendance en tant qu'écrivaine, en tant que romancière, à partir en mode: ah oui, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Donc voilà, je leur dis toujours, je vous donne des conseils, mais le plus important, c'est vous. C'est ce que vous voulez mettre dedans. C'est le plus important. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans mes échanges avec eux, c'est qu'au fur et à mesure, on a qui prennent de l'assurance. Oui, mais en fait, je préfère vraiment me mettre comme ça parce que c'est mieux comme ça, ça me ressemble plus, ou ça va plus avec mon personnage. Donc, c'est au fur et à mesure des séances, on sent l'assurance, on sent le changement. Et c'est beau aussi parce que ça devient... Enfin, ça a toujours été leur travail, mais ça le devient encore plus. Elle devient encore plus quand je suis là juste pour le côté cohérent, pour le côté fluide, pour le côté recul.
Ouais.
Voilà. Et c'est une évolution dans l'accompagnement.
Ouais. Donc, ce que j'entends, c'est 1, prenez soin de vous. 2, donnez-vous l'espace. 3, trouvez du soutien bienveillant et de cœur. Et écoutez-vous et allez-y.
Voilà, c'est ça. Il faut s'écouter.
Ouais.
Il faut s'écouter. C'est le meilleur conseil que je pourrais donner aux personnes, c'est vraiment de prendre le temps de s'écouter.
Super. Bon, ben, c'est une belle façon de terminer ce temps d'échange. Je te remercie infiniment, Clotilde. C'était un chouette partage.
Merci à toi. Ça me fait plaisir de partager tout ça.
Et puis, j'espère que tu écriras encore beaucoup de romans.
J'espère aussi. Là, j'ai une BD qui sort bientôt avec mon mari. On a une BD qui sort bientôt. Donc, voilà.
Super. Et puis, je mettrai de toute façon tes coordonnées sous la vidéo et sous le podcast. Mais est-ce que tu as un site ou est-ce que tu as quelque chose qui permet aux personnes de te contacter?
Un Instagram.
Ouais.
Donc, c'est Clotilde Jean-Baptiste tout collé. Il n'y a pas le point, parce qu'il y a un Instagram avec le point et ce n'est pas le bon, parce que c'est l'ancien. Donc, c'est Clotilde.
Jean-Baptiste, sans point.
Voilà. Jean-Baptiste, tout collé.
Clotilde, tout collé.
Tout collé, okay. Pas de point,
et
pas
donc,
de
donc, ils peuvent te contacter par ce voilà. biais pour être accompagné par toi, si
le voilà, s'ils le souhaitent. Ce sera avec grand plaisir.
Super. Voilà. Bah, écoute, je te dis au revoir et puis au revoir à toutes.
Au revoir à toutes.
Et à la semaine prochaine.
Si cet épisode vous a inspiré, je serais ravie que vous partagiez vos impressions dans le groupe Facebook Un Instant Une Vie. Rendez-vous la semaine prochaine pour rencontrer une autre femme, unique et singulière dans sa puissance et sa vulnérabilité. Belle et douce journée, créatrice de vie.